Vous vous intéressez à la généalogie et cherchez à savoir qui sont vos ancêtres. Cette chronique est faite pour vous. Huguette Nadal, spécialiste en la matière, vous donne désormais des conseils chaque semaine. Bonjour Huguette.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, nous avons parlé de l'acte de naissance d'avant la Révolution. Nous voyons aujourd'hui ce qu'il en est depuis la Révolution française.
Alors pendant la Révolution, beaucoup de nobles ont abandonné les particules. Les deux, les du, les des apostrophes, pour ne pas paraître aristocrates. Exemple, les de Montmorency sont devenus tout simplement Montmorency. Hein. En 1794, loi du 24 Brumaire en 2 et 14 novembre 1793, je reviendrai sur le calendrier révolutionnaire, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important à apprendre. La Convention décide que tout citoyen peut choisir librement son nom et son prénom, à condition de ne pas prendre, bien sûr, ceux de notre famille. Les prénoms religieux ou aristocrates sont découragés. On recommande plutôt des prénoms républicains, inspirés par la nature ou l'Antiquité. Par exemple, Liberté, Brutus, Flore, enfin, Victoire, Républicaine, voilà, tel prénom. Genre d'autres, Liberté, Égalité, Fraternité, pour les noms patriotiques, bien sûr. Les prénoms militaires, Victoire, Triomphe, Brutus, Marat, les prénoms de la nature, la flore, la rose, l'olivier, montagne, ruisseau, et puis des prénoms de vertu, vertu, espérance, frugalité, modération. On retrouve dans certains registres d'état civil des enfants prénommés Constitution ou encore Fraternité. Ces prénoms très originaux ont souvent disparu après la Révolution, car jugés trop marqués politiquement,
bien sûr.
Conséquence. Certains citoyens changent volontairement de nom pour paraître plus républicains. Les nobles effacent leur marque d'origine aristocratique pour éviter la persécution. Et l'écriture des noms peuvent changer suivant le secrétaire qui a reçu le déclarant. Il faut bien comprendre que quand nous sommes passés sous le régime révolutionnaire, la plupart des communes, les officiers municipaux qui ont pris la direction de la commune, parlaient patois, eux. Certes, les nobles du coin avaient reçu une éducation, mais ce n'était pas eux qui tenaient les registres. C'était bien souvent le quidam qui recevait la déclaration et la notait comme il entendait. Donc, ça a entraîné beaucoup d'erreurs au niveau aussi des écritures. Voilà. Donc, le contenu de ces actes, en règle générale, contiennent la date et l'heure de la naissance, le nom, le prénom, le sexe de l'enfant, le nom, le prénom, les âges, les professions et les domiciles des parents, l'identité des témoins et des déclarants. Maintenant, on n'a plus affaire aux parrains et à la marraine. Ça peut être aussi, mais en règle générale, ça peut être n'importe qui. Et ça permet de confirmer la filiation, de retrouver le lieu d'origine de la famille et de suivre, bien sûr, cette lignée familiale. Voilà. Après la Révolution, sous Napoléon, la liberté absolue est restreinte. Le Code civil de 1803 fixe une règle. Le nom est attribué à la naissance et devient immuable, sauf autorisation spéciale par décret, et c'est encore valable aujourd'hui. L'autre problématique, c'est que la plupart des nouveau-nés portent le même prénom dans la même famille. Le taux de décès infantile faisait qu'on attribuait, au cas où, Pierre ou Jacques ou Jean, pour les garçons, Marie, Catherine, Jeanne, aux filles, au cas où, bien sûr, ces enfants disparaîtraient. Mais il faut retenir une seule chose. Seule la date de naissance permet de les distinguer entre eux. Voilà.
Donc, au sein d'une même fratrie, il pouvait y avoir les mêmes prénoms.
Tout à fait. Nous avons des dizaines d'enfants qui, même parce qu'ils étaient des grandes familles, des dizaines de garçons qui portent le prénom Jean, les uns après les autres, et des filles pareilles. Ce qui fait que, par exemple, si un des gens se mariait avec une Marie d'une autre famille, bien souvent, et que la Marie décédait lors de l'accouchement, bien souvent, ce même Jean se remariait avec une Marie qui pouvait être une sœur ou une cousine. Mais après, comment faire la distinction entre les deux? Donc, seule la date de naissance peut permettre de savoir qui appartient à
vraiment qui.
Voilà.
Okay. D'accord.
C'est l'acte le plus important dans la généalogie, l'acte de naissance.
Ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Huguette, pour toutes ces informations. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Liberté FM. Liberté FM. 100% local.